Actualité.
Alexandre Dubé.
Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
À quoi ressemble le bilan COVID d'aujourd'hui?
On est sur ce long plateau, hein, 1513 cas encore aujourd'hui sur 42 000, presque 700 tests. Pour Montréal, c'est en hausse à 390, légère baisse dans la capitale nationale. Chaudière-Appalaches, c'est stable. Mais quand on regarde au prorata là, de la population, c'est pratiquement dans Chaudière-Appalaches là, où le taux de est le plus élevé, si bien que Christian Dubé va aller faire un tour là-bas cet après-midi. Les hospitalisations au total dans la province sont en hausse, légère hausse là, de une hospitalisation pour un total de 661 hospitalisations, 7 personnes de plus aux soins intensifs pour un total de 159. 67 708 doses de vaccins ont été administrées. Et deux petites nouvelles rapidement, notamment une nouvelle de dernière heure qui touche le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Mmh. On vient tout juste d'apprendre, selon Radio-Canada, que le Grand Prix était annulé pour des motifs sanitaires. En fait, les autorités locales jugeant le risque de propagation de la COVID-19 trop élevé, même si on organisait le tout à huis clos. Alors, d'une part, ça vient de tomber. Et de l'autre, on a appris également au cours des dernières minutes que la livraison de 1,2 million de doses du vaccin de Moderna prévue la semaine prochaine au Canada allait être repoussée, malheureusement, à la fin du mois d'avril.
Ouais, puis ça, il y a un article dans le Globe and Mail là, qui est vraiment hallucinant parce que à travers le Canada, il y a des retards dans la campagne de vaccination. On cherche des doses en Alberta, en Colombie-Britannique, partout, là, en Ontario. Mm-hmm. Et pendant ce temps, au Québec, Alexandre, on boude ici à Montréal, on boude le vaccin qui serait disponible.
C'est particulier, hein? C'est vraiment particulier. Puis, article intéressant dans le journal ce matin, justement, là-dessus, là, sur ces vaccinateurs qui se tourne un peu les pouces, là, si on veut, là, à certains endroits. C'est du moins ce qu'on observait. Je te raconte là, quelques cas là, brièvement là-dessus. Est-ce que c'est en lien avec l'AstraZeneca? Pourtant, on avait eu une belle réponse là, au cours de la fin de semaine à plusieurs endroits. Mais ça engendre actuellement un problème parce qu'il y a plusieurs plages horaires qui sont encore disponibles. Et s'il y a peu de gens qui se sont précipités pour recevoir une dose là, dans les derniers jours, on aperçoit là, que c'est vraiment le calme plat dans plusieurs centres de vaccination. Il y a des employés ce matin dans le journal qui déplorent la situation en disant qu'aucune entreprise n'accepterait une perte d'argent comme celle-là. Et nos collègues du journal ont repéré aussi sur le site de réservation Clic Santé un très, très grand nombre de plages horaires disponibles le jour ou même dans les prochains jours pour recevoir l'AstraZeneca dans la région de Montréal. Alors là-dessus, vraiment, c'est une situation qui est particulière. Là, il y en a aussi qui commencent à se poser des questions en disant, est-ce qu'il serait peut-être grand temps d'ouvrir la vaccination? On comprend que AstraZeneca ne peut pas être administré à toute tranche d'âge, là, mais quand même. De ce côté-là, il y a les malades chroniques également qui tapent du pied, qui disent, c'est plus restreint que ce qui avait été initialement annoncé pour ce qui est des groupes de personnes qui étaient admissibles. Alors, c'est tout ça, mais c'est clair que de voir des centres de vaccination qui ne roulent pas à pleine capacité à ce stade-ci de la pandémie, c'est inacceptable.
En sachant que dans le reste du pays, du Canada, ils courent après les doses.
Ouais.
Là, c'est quoi notre façon de penser au Québec, là? Je voyais, Alex, je sais pas ce que tu penses de ça, mais 60% des travailleurs dans le domaine de la santé qui sont vaccinés, les 40%, le reste de 40%, là, ils font quoi? Ils attendent quoi?
C'est nettement insuffisant. C'est nettement insuffisant quand on regarde ça. C'est difficile à expliquer, hein, cette crainte-là par rapport au vaccin, cette faible adhésion-là par endroit par rapport au vaccin, d'autant plus dans le milieu de la santé, des gens qui côtoient les patients, des gens qui voient aux premières loges les impacts de la COVID. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs en Outaouais, hein, quand il y avait eu cette éclosion-là, dans un CHSLD là, de mémoire là, de Gatineau, où très, très peu d'employés avaient été vaccinés. Pour toutes sortes de raisons. En Outaouais, c'était peut-être l'accès au vaccin, les horaires de vaccination. Bref, tu sais, il y avait toutes sortes de raisons. On comprend qu'il n'est pas obligatoire, c'est au choix de la personne. Mais c'est parfois difficile à expliquer, ça,
ouais,
Benoît.
Oui, un peu. Bon, confusion autour du port du masque, Alex. Es-tu à l'extérieur ou t'es à l'intérieur, là, Alex?
Là, je suis à l'intérieur.
T'es à l'intérieur. Est-ce que t'es obligé de porter un masque puisqu'on se parle, puis je suis pas sûr qu'on soit radiophoniquement... Non, je ne sais pas.
Je te confirme qu'on est à plus que 2 mètres parce que tu es au centre-ville de Montréal et moi, je suis dans les montagnes, dans les Laurentides.
Ah oui, OK.
Mais alors, la distance est appropriée dans ce cas-ci. mais quelle histoire, hein? Le plus récent chapitre, là, c'est le point de presse de cet après-midi de M. Legault. En fait, la mêlée de presse, là, je devrais plutôt dire. Il ne pense pas dans un premier temps que toute cette confusion-là puis l'espèce de yo-yo là, entourant le port du masque à l'extérieur va vraiment effriter l'adhésion de la population aux mesures sanitaires. On sait que M. Legault a précisé sur ses réseaux sociaux hier la consigne, donc c'est un recul, parce que il ne sera pas nécessaire de porter un masque à l'extérieur quand, par exemple, on joue au tennis ou on joue au golf, ou un couple, par exemple, là, qui résidait pas à la même adresse, et ça, c'était la plus grosse aberration, là. Je veux dire, et Gabriel Nadeau-Dubois l'a très bien expliqué. Il y a deux personnes qui peuvent se frencher à l'intérieur, mais quand ils vont aller marcher, ah ben là, faut porter le masque. Là, faut se tenir à 2 mètres. C'est, à un moment donné, la cohérence est importante pour avoir de la cohésion mesures, surtout à ce stade-ci.
Tu peux te frencher à l'extérieur, mais il faut que tu gardes ton masque.
Oui, mais moi, t'as le dit, ça french mal en maudit avec un masque. T'as-tu déjà essayé ça?
Non.
Moi, je l'ai pas essayé encore.
Non, je trouve
à vivre, peut-être, comme expérience. mais la grogne s'est amplifiée, là, en milieu de semaine, justement, quand cette mesure-là est sortie. Donc, M. Legault a modifié le décret. Il a fait face à un barrage de questions cet avant-midi. Et les journalistes lui ont posé la question aussi, mais ça passe-tu vraiment par les réseaux sociaux, ce genre de mise au point-là? Ben, il disait, ben oui, j'ai agi quand même rapidement sur les réseaux sociaux, étant donné que j'avais pas de point de presse hier, là, c'était le Conseil des ministres. On comprend que l'agenda du PM était quand même assez chargé hier. Et l'autre sujet qui a été abordé, notamment dans ce point de presse-là, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence qui, on sait, a été renouvelé au-delà de 55 fois depuis le début de la pandémie par décret. Okay? Et ça, je veux pas rentrer dans les détails des articles, là, puis faire mon taponneux, mais c'est l'article 119 de la loi sur la santé publique qui prévoit deux choses. Soit que l'état d'urgence peut être renouvelé pour une période de 10 jours, ou avec l'assentiment de l'Assemblée nationale pour des périodes maximales de 30 jours. Alors, Mme Anglade, à qui j'ai parlé ce matin, salut, bonjour, souhaiterait donc qu'il y ait davantage de débat, qu'il y ait une certaine discussion et que les partis d'opposition soient interpellés. M. Legault rétorque à ça en disant « C'est une évidence qu'on est en urgence sanitaire. » Alors, on n'a pas besoin de faire de débat sur la question. Et il est même allé un peu plus loin en disant « Madame Anglade essaie de faire croire aux Québécois qu'on n'est pas transparent. » Là, je le cite. « Alors qu'on est transparent. » Alors, tu vois, l'opposition cogne ce clou-là. Monsieur Legault réplique là, de ce côté-là et écarte là, du revers de la main la possibilité d'aller de l'avant avec cette mesure-là.
Sortons de la pandémie, puis on s'occupera de ça après. Là hier, Antoine Robitaille et Caroline de Saint-Hilaire ont fait une crise là pour dire que là, c'était inacceptable qu'on reproduise à chaque semaine là, l'état d'urgence sanitaire. Qu'on vaccine tout le monde, puis on va arrêter d'en parler, tu sais.
C'est que les oppositions, essentiellement, disent, ben, si on avait notre mot à dire, peut-être qu'il y aurait des décisions différentes qui auraient pu être prises.
Ouais, mais faites-vous élire.
Ben. Ils sont élus, mais ils sont pas majoritaires.
Ben, c'est ce que je te dis. Bon, Patricia Tulane aussi, là, qui a posé un geste envers Gilbert Rozon ce matin.
Un geste important, effectivement, c'est le devoir initialement qui est sorti cette nouvelle-là, en apprenant donc qu'elle réclamait 1,6 million de dollars en dommages compensatoires et punitifs pour tous les torts subis. Et ça, c'est une poursuite au civil contre Gilbert Rozon. Elle devient d'ailleurs la première femme à intenter de façon individuelle une poursuite au civil contre Rozon. Souviens-toi que les courageuses, hein, ce regroupement d'une vingtaine de femmes qui disaient avoir été agressées par Rozon entre 82 et 2016, elles ont subi un revers. Donc, c'est la Cour suprême qui avait rejeté leur requête d'appel, qui avait mis fin ultimement à leur démarche. Mais là, Patricia Tulane revient avec une poursuite au civil contre Roson. Et dans sa poursuite, Benoît, ben, elle déplore qu'il nie ultimement les agissements allégués. Dans son cas, elle allègue avoir été brutalement violée par Roson en 1994, qu'il n'y exprimerait aucun remords, qu'il a menti publiquement en niant aussi avoir agressé sexuellement Mme Tulane, et d'avoir fait d'autres victimes. Alors, c'est l'essentiel là, de cette poursuite-là. Je te rappelle aussi que du côté de M. Roson, lui, il avait récemment intenté une poursuite en diffamation de 450 000 $ contre les animatrices Julie Snyder et Penelope McQuaid. Et en décembre dernier, au criminel, le tribunal avait acquitté M. Roson des accusations de viol et d'attentat à la pudeur qui pesaient contre lui. C'était un procès qui se penchait sur les événements qui étaient survenus il y a une quarantaine d'années là, du côté de Saint-Sauveur dans les Laurentides.
Bon, et avant qu'on se quitte, un mot sur l'éducation.
Oui, un mot sur l'éducation. Alors qu'il y a eu hier manifestation, là, il y a eu avancée dans les négociations, mais pas avec le syndicat qui a fait la manifestation hier. Donc, on a appris ce matin, c'est le comité exécutif de la Fédération autonome de l'enseignement qui a annoncé avoir convenu d'une proposition globale de règlement avec le secrétariat du Conseil du Trésor. C'est un règlement qui touche les questions des conditions de travail, mais aussi les questions salariales. Maintenant, les prochaines étapes, il est trop tôt pour parler là, d'un accord de principe, là, mais les prochaines étapes en clair, là, c'est que ce règlement-là va être soumis aux membres du Conseil fédératif de négociation. Ça a lieu aujourd'hui et demain, cette rencontre-là. Si le règlement devient une entente de principe après avoir franchi l'étape du Conseil fédératif de négo, ben là, les membres vont pouvoir se prononcer là-dessus dans le cadre d'assemblées générales virtuelles. Et pour ce qui est de la FAE, ben, les 49 000 enseignants syndiqués menaçaient, eux, de déclencher une grève générale illimitée à compter du 31 mai prochain si aucune avancée significative n'était constatée à la table de négociation. Alors, c'est ce qui a été précisé ce matin et on verra bien la suite des choses.
Bon, écoute, on va s'arrêter là-dessus, Alexandre Dubé, puis reste tranquille dans les Laurentides. Vous autres, il n'y a pas de campagne de vaccination. Là, tout ce qui est en Beauce, là, on pourrait vous l'envoyer dans les Laurentides.
Dans sa vaccine quand même, dans les Laurentides, sa vaccine. Mais, et le conseil du jour, Benoît,
ouais.
S'assurer que notre caméra n'est pas allumée lorsqu'on est en télétravail. On se le dira jamais assez.
Hein. Non, c'est ça. Hein?
Je me suis toujours pas remis, moi, de ce qui s'est passé hier aux séances virtuelles de la Chambre des communes. Vraiment, monsieur... le député William Amos, qui a été surpris... au retour d'une séance de jogging, vraiment qu'il a appris à ses dépens les joies du télétravail.
Mais tout nu dans son bureau, entre le drapeau du Québec puis le drapeau du Canada, il était en berne, le pauvre monsieur, je pense.
Il était en berne et il nous a exposé ses couleurs.
Ah, vraiment. Tu sais, il nous a fait un Marcel Aubu. C'est pas chic, là. Come on. Habille-toi. Mets un plaster sur cette caméra. On veut pas voir ça. OK, c'est correct. Hey, on se laisse là-dessus, Alex. À demain.
Un petit clin d'œil humoristique. Salut.